Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial Ballon Rond et Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial Aventure. Notre invitée, c'est la chanteuse et compositrice présentée parfois comme la diva du jazz, Mélodie Gardot. On va parler de son album Sunset in the Blue, album écrit en partie pendant le premier confinement. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, des tableaux très connus présentés dans un garage. C'est Louise Bernard qui va nous expliquer ça. Et puis un manga qui revisite la guerre des mondes. Clément Le Saffre l'a lu pour nous. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bertrand Chamerois, bonjour.
Bonjour Philippe.
Ravi de vous retrouver tous les deux comme chaque matin. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Et ce matin, je l'ai dit, vous êtes d'humeur aventurière.
Allez hop, on y va en route pour l'aventure. On ne résiste pas à l'appel de Banga. Ne jamais oublier de citer les classiques de l'aventure. Donc, c'était hier le lancement de la 14e saison de Pékin Express sur M6 en Ouganda cette année. Le principe des engueulades, de la transpi et des gens qui ne trouvent pas leur chemin. Bref, un road trip, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que là, c'est filmé. Parmi les épreuves hier, une course de pirogue qui a évidemment débouché sur... des engueulades, exactement.
Oui,
et le duo Florent et Noël m'a fait penser à un autre binôme. Écoutez-les se gueuler dessus, on dirait Macron et Castex qui discutent de la situation sanitaire.
On galère, parce que je suis lourd.
Mais on galère pas, on est sur la barque et on y va.
On galère, regarde, je suis dans l'eau.
Mais t'es chou. Mais on est dans l'eau depuis tout à l'heure.
Mais ouais, mais on coule, moi.
Mais non, on coule pas, arrête de paniquer, depuis tout à l'heure on flotte. Hein.
Mais vas-y.
T'as voulu du Pékin Express, hein? Eh ben tu vas m'aussi, hein. Mais on perdra pas, putain, arrête là.
On se croirait à Matignon.
C'est ça, mais
je les adore. Suite de la dispute, et là, visiblement, ils parlaient stratégie vaccinale en se comparant aux autres pays.
Je vais être premier, je vais pas être cinquième. Ça, ils nous rattrapent quand même.
Je râle sur le lac car j'ai l'impression qu'on n'avance pas. On se fait doubler petit à petit, lentement. On rame comme eux, mais on n'avance pas.
Je fais doubler par tout le monde.
Mais là, tu fais pas doubler par tout le monde.
Ils sont trop drôles.
Mais oui, c'est mes chouchous. À l'animation de Pékin Express, le baroudeur Stéphane Rothenberg, que vous retrouverez ce soir dans Top Chef, et comme dans toutes les émissions qu'il anime, l'ambiance est horrible.
Oh putain, le bazar!
On en prend déjà plein la gueule alors qu'on est qu'au jour 1.
Je distingue pas très bien les zones qui sont un peu plus sèches et les zones un peu plus humides.
Et là, je sens la
voilà,
pression.
Voilà, j'étais en pression.
Oui, je n'ai pas pu m'empêcher. Attends, une milieu de semaine, on enchaîne très vite. Mais Pékin Express, c'est avant tout de la compétition et donc des épreuves. Et cette année, on sent que les créateurs des jeux n'avaient pas super envie de se casser la tête pour imaginer des épreuves qui en jettent.
Les binômes, tous positionnés sur des tourniquets en marche, vont devoir deviner le titre ainsi que l'interprète de chansons reprises par un groupe de musiciens de la région.
Ouais, ils doivent être contents, les candidats. Tu te fais de 9500 bornes pour faire un blind test. C'est super sympa, ça. Non, je taquine. Il y avait des épreuves originales. Comme celle-ci, les candidats devaient trouver un rhinocéros dans la nature et se prendre en selfie avec lui. Problème, un rhino, c'est pas super facile à débusquer. Heureusement, les candidats sont très calés niveau vie sauvage.
Putain, mais ils sont où ces rhinos, bordel ? Regarde dans les arbres.
Mais, des rhinocéros dans les arbres. Visiblement, son abonnement à National Geographic a expiré depuis un bon moment. Et l'abonnement à Wall Street English aussi, car oui, une fois de plus, la France a brillé à l'international en prouvant une fois de plus qu'on n'est pas l'avant-dernier pays qui parle le moins bien anglais pour rien.
Les candidats évoluent à pied avec leurs valises sur les pistes rouges africaines.
Is that in this way? This way? You have petrol? Petrol?
Yes.
Little bit for this car? Thank you! Ouvrir!
Is a baby with a big rhinoceros?
Do you want some help?
Possible? Dodo?
Possible, Dodo? Mais ouais, c'est les champions dans le genre, ce sont Peter, Louis and Arnaud. Pierre-Louis et Arnaud. Ils voulaient demander à un habitant s'il est possible de dormir chez lui, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Un mot mal prononcé et la question prend une toute autre tournure.
Hello, we are looking for a house for sleep tonight. And we want to sleep with...
Can we enter?
In your house.
Voilà, nous voulons dormir dans votre cul. C'est direct, mais ils demandent l'autorisation, c'est déjà ça. Allez, bonne journée.
Merci beaucoup Bertrand. Eva, plus sérieusement,
oui.
Vous vouliez consacrer votre zapping du lendemain à un documentaire événement.
Oui, et si vous êtes fidèle à la matinale de Mathieu Béliard, vous avez de toute évidence entendu la chronique de Virginie Fulpin qui partage mon enthousiasme pour un documentaire consacré à Pelé et à voir sur Netflix. Avec la participation de Pelé pendant presque 2 heures, des souvenirs footballistiques et pas seulement, parce que l'histoire de cet immense joueur du foot se confond avec celle du Brésil. Alors, j'ai regardé et surtout j'ai écouté ce film, parce que la vie de Pelé, c'est aussi une suite de sons comme celui-là. Les clameurs d'un stade qui ont été sa nourriture terrestre pendant sa si longue carrière, débutée alors qu'il n'avait que 13 ans et qui s'est achevée aux États-Unis en 1977. Sur son maillot, 3 étoiles de champion du monde, dont celle de 1970. Avec l'équipe du Brésil, il n'était pas favori pour autant. Après le premier match, il était redevenu le roi du monde, Pelé, l'art du foot au rythme d'une samba.
1970, c'était le bonheur. On formait un groupe incroyable. Ces amitiés, vous savez, les fous rires partagés, c'est rare.
Et il a gagné cette Coupe du Monde, je vous ne spoil rien. Non. Et pourtant, on a beau connaître la fin, Philippe, eh bien on se surprend à vibrer, à avoir peur, à trembler en voyant le maître Pelé fonçant vers les filets de l'adversaire. Mais lui aussi, il a tremblé. Il raconte ce stress qui ne l'a jamais quitté, cette émotion trop vive à l'arrivée au stade avant la finale contre l'Italie, toujours en 1970, des milliers de supporters scandant son nom et lui s'effondrant en larmes devant tant de marques d'affection. Il raconte ce moment face aux caméras des deux réalisateurs, David Treyhorn et Ben Nicolas, et il pleure.
Mais c'était une décharge d'émotion. C'est ma dernière Coupe du Monde. Aidez-moi, Seigneur. Je veux cette Coupe. Vous devez m'aider. Excusez-moi. C'est plus fort que moi. Désolé.
Et de tous les sons qui rythment ce documentaire remarquable, il y en a un qui revient. Pelé est assis, sur ses genoux une boîte en bois et ses doigts qui tapotent délicatement la surface. Cette boîte, c'est celle de Pelé, gamin, qui pour subvenir aux besoins de la famille, cirait les chaussures dans la rue. C'est tout ça Pelé, et bien plus encore. Laissez-vous porter par ce documentaire, par le regard de Pelé, ses mots, son sourire et son émotion. Et c'est à voir indiscutablement sur Netflix, évidemment.
Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chamerois, c'est émouvant, j'ai envie de voir ça. Bertrand, on vous retrouve demain à 7h40 pour la touche âme.
Yes.
Dans la matinale de Mathieu Béliard. Et puis dans un instant, nous serons avec notre invité qui, en plus de tous ses talents, adore le Brésil et parle portugais, la chanteuse de jazz Mélodie Gardot. D'abord, on écoute son duo avec Sting, Mélodie Gardot, ça s'appelle Little Something.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it. A little something, the melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted, tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Stop thinking about it, I'm
little something.
Little Something, c'était Mélodie Gardot en duo avec Sting sur Europe 1. Elle est notre invitée, elle est déjà dans ce studio. On va parler dans un instant de son cinquième album, Sunset in the Blue. Culture Média continue.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Mélodie Gardot.
Bonjour.
Plaisir de vous recevoir ici dans ce studio en pamoison, comme quasiment toute la presse. Télérama écrit de vous. Mélodie Gardot a un charme fou, qu'on l'entende chanter, parler, qu'on la voit en photo, sur un écran ou devant soi. Elle irradie de sensualité. Fin de citation. Vous êtes chanteuse de jazz, c'est dans cette catégorie qu'on trouve vos albums, mais vous ne rechignez pas à explorer d'autres pistes. On vient d'entendre votre duo avec Sting. On va maintenant parler de votre dernier album, Sunset in the Blue, très sensuel, très jazz. Vous êtes revenu à vos fondamentaux, avec un album enregistré dans des conditions assez exceptionnelles. Il y avait des musiciens du Royal Philharmonic Orchestra au studio Abbey Road, le fameux studio des Beatles à Londres, mais en distanciel. Si j'ai bien compris, le chef d'orchestre était à Los Angeles.
Oui.
Et vous étiez où ?
À Paris.
Et l'orchestre était à Londres ?
Exactement.
Comment vous avez composé ? Comment vous avez écrit cet album ? Vous étiez dans quel état d'esprit ? Vous avez dit une fois que vous étiez dans une ambiance satin et velours.
En fait, après avoir fait une tournée avec pas mal de musiciens philharmoniques, j'avais eu très envie de ramener cet esprit dans cet album. Parce que en 2015, j'avais sorti un album qui était très rock, un peu blues, très Los Angeles, si tu veux, parce qu'il avait, cette feeling hard, concrete. Et j'ai plongé dans la féminité sur scène. Ouais. Alors, comme il n'avait pas ça dans l'album, je me suis dit, ça sera génial de d'aller dans cette direction-là, et on était dans cette mood sensuelle, justement.
Le mood, ça veut dire l'ambiance, et on va aussi raconter la manière de faire cet album. Vous êtes assez présente sur les réseaux sociaux, et en mai dernier, vous avez fait une annonce. On vous voyait sur un balcon, avec un violon, on écoute.
Bien évidemment, je ne peux pas jouer le violon.
Alors, ça casse les oreilles, c'était quoi l'idée ?
Déjà, le violon était abandonné depuis des années, alors c'était même pas un rêve d'essayer de trouver les tons. Mais le but était de faire un appel international pour toutes mes amies, les musiciennes classiques, de venir nous aider, parce qu'on a eu envie de réunir tous ces gens qui étaient sans boulot à l'instant et sans espoir, parce que la musique et dans les arts en général, avec le confinement, a totalement arrêté. Alors j'ai essayé de rassembler ces musiciennes autour d'un morceau de musique qui s'appelle From Paris with Love, qui était vraiment un symbole de l'amour et la unité qu'on a ensemble.
Vous avez inventé le premier casting numérique mondial. Plus d'une cinquantaine vous ont répondu. Il y en a 45, je crois, sur le disque. Et le résultat, ça donne cela, le titre Paris with Love.
Awaken to the morning light. Laser boats around the bend. Shimmers once or twice to move this pen. Beauty fades before the mirror's rim. Beauty knocks upon your door. Life is leading us to something.
C'est votre voix, évidemment, Mélodie Gardot, qu'on entend. Comment tous les musiciens ont-ils pu tous jouer ensemble des quatre coins du monde ? Ils avaient tous la partition, j'imagine, mais comment vous avez calé tous ces sons ensemble ?
Honnêtement, c'était une idée totalement fou. On avait déjà eu un arrangement qui était prêt pour cette musique, si jamais il se trouve qu'on rentre dans le studio.
Ouais.
Mais comme vous savez bien, il faut un chef d'orchestre pour gérer normalement un arrangement si compliqué comme lequel il écrit Vince Mendoza. C'est un des plus grands du monde, mais il y a parfois des vagues qui traversent les bars dans la musique qui sera impossible de faire dans ce contexte. Alors, gentiment, il avait dit d'accord pour, il était d'accord pour refaire le travail qu'il avait déjà fait, pour créer quelque chose qui peut tout à fait marcher dans ce contexte.
Ouais.
Avec les droits croisés. Hein. Ouais. C'était dans ces moments-là juste une idée.
Mais chaque musicien était chez lui. Aucun musicien n'a vu aucun musicien.
Exactement. Et on a mis ça sur le web. Et grâce à la presse qui nous aidait à amplifier le message, on a eu un retour incroyable, international, ici jusqu'à la Corée. Les musiciennes parfois connues, et les musiciennes parfois comme de Bologne encore, 17 ans, une petite fille qui rêve d'être une musicienne, qui se trouve dans cet album maintenant.
Et je dois préciser deux informations. Les droits de la chanson sont reversés à une association. Les musiciens ont joué gratuitement, mais en plus, très beau geste, ils ont été payés par vous, Mélanie Gardot. Beaucoup de choses qu'on va encore apprendre sur vous. On n'est pas au bout de nos surprises. Je parle doucement, vous comprenez pourquoi je parle doucement. Hélène Manarino arrive, Culture Média continue.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Mélanie Gardot et sa voix de velours, elle a été mille fois qualifiée avant moi et beaucoup mieux que moi. Je vous présente Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Hélène, et votre voix aussi a été mille fois qualifiée avant moi et beaucoup mieux que moi.
Bonjour Mélanie Gardot. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, oui, vous êtes très mystérieuse, pudique, mais on va tout de même se balader dans votre vie ce matin. Mélanie Gardot, vous dites souvent que vous êtes très attachée à vos valises. Vous avez eu l'habitude d'en faire. La qualité d'une valise, c'est d'ailleurs très important pour vous. Alors c'est tout naturellement que ce matin, je vous propose d'ouvrir la valise de vos souvenirs, la valise de votre vie, très bien rangée, une valise nommée Mélanie. Un prénom que votre maman vous a donné au bout de 7 jours, car elle pensait avoir un garçon. Mmh. Une maman dont vous êtes très très proche, qui a fêté d'ailleurs ses 65 ans. Hier. Alors, Mélanie Gardot...
Vous avez plongé dans le placard de mes amis, je vois.
Peut-être pas, Mélanie Gardot, dans peut-être votre pas. Valise des souvenirs, il pourrait y avoir plusieurs valeurs, sentiments, caractéristiques. Tout d'abord, votre force intérieure et mentale. Depuis l'enfance, vous avez grandi dans un quartier un petit peu difficile aux États-Unis, mais vous étiez la patronne. Un jour, un de vos amis est venu chez vous, on venait de lui piquer son portefeuille. En 20 minutes, vous l'avez récupéré. Force physique. Eh bien oui, c'est comme ça avec Mélanie Gardot. Force physique. Après votre accident, vous vous êtes inscrite à la boxe. Vous êtes une très bonne boxeuse, oui. Mais vous ne vous laissez pas faire depuis toujours. À l'âge de 4 ans, un petit garçon vous embêtait au bac à sable. Sa sœur était dans votre classe. Et un jour après la récréation, vous êtes montée sur la table en pointant du doigt cette jeune fille pour insulter son petit frère.
À 4 ans.
À 4 ans.
Non, pas à 4 ans.
À quel âge ?
Parce que j'étais dans l'école. Alors,
enfin, pas très loin, quoi.
Première grade, ça sera 6 peut-être.
Ah,
6
oui, alors,
à 6 ans.
Mais j'ai fait genre, parce que j'étais intelligente, j'ai fait genre spelling bee. Parce qu'aux États-Unis, le spelling bee, c'est quand vous prononciez le mot, vous appeliez le mot et après vous prononciez. Alors, j'ai fait une insulte où j'ai écrit, j'ai prononcé, j'ai écrit encore et j'ai déclaré.
Ça passe mieux comme
j'étais
ça.
J'étais sûrement jetée de l'école à ce moment-là.
Ce n'est d'ailleurs pas surprenant que vous connaissez les insultes pour toutes les langues, pratiquement. Alors, une autre chose domine dans cette valise de qualité, votre naïveté d'enfant. Quand vous aviez 5 ans, vous n'aviez pas trop à manger, vous preniez un petit panier pour faire le tour du quartier et demander aux voisins s'ils n'avaient pas quelque chose et vous rentriez chez vous en affirmant « Maman, j'ai fait les courses ». Ce cœur sur la main des autres, c'est celui que vous avez, et oui, sans misérabilisme, juste de la sincérité, la vôtre. Vous êtes capable de descendre dans la rue pour apporter un plat que vous n'avez pas fini à un SDF, curieuse des autres, touchée aussi par leur histoire, faire plaisir à vos proches, soit en leur coupant les cheveux, notamment pendant le confinement, ou alors...
Comment vous savez ça ?
Elle sait tout, Hélène. Elle sait
ou alors,
tout, Hélène.
Offrir des fleurs, vous aimez ça. D'ailleurs, vous auriez aimé être fleuriste. Vous avez beaucoup d'amis fidèles qui souffraient longtemps de ne pas pouvoir vous joindre moindre puisque vous avez un portable que depuis 3-4 ans. Mélodie Gardot, douce, oui, calme. Vous n'aimez pas le bruit de la ville. Le bruit de la perceuse aussi vous agace. Vous détestez être stressé par les horaires. Vous rêvez de plage au Brésil, d'être allongé avec une guitare dans un hamac. Vous détestez le froid. C'est pour ça que vous ne jurez que par des pulls en cachemire. Vous êtes capable de passer des heures dans un bain, vous détendre devant un opéra.
Ah, ça, c'est mon bureau.
Les séries criminelles aussi, vous aimez ça, votre film préféré, Le Parrain. Bref, vous aimez être cool, vous faites du yoga aussi, mais face à ça, vous êtes capable d'être une véritable pile électrique qui ne s'arrête jamais. Et là, on va déplier ce qui est rangé dans la partie humour de votre valise depuis l'enfance. Déjà, votre théâtre de marionnettes que vous aviez construit, vous imitiez la voix d'une vieille dame, c'était très drôle. D'ailleurs, vous avez gardé ce côté imitation, vous imitez à la perfection la californienne. Alors, il faut nous le faire, mais Mélodie.
Oh, mais ça, je veux pas... I don't want to insult anybody, but it's a thing, so... Oh my God, I'm so happy to see you today. Like, seriously, do you guys have any coffee? I was hoping there was a Starbucks nearby. Is there a Starbucks here? Oh my God, seriously. It is amazing. Is this a TV? Am I on TV right now? Oh my God. Wow, how's my hair? Is everything fine? Is the Bon Marché open? Because I really need some shoes.
Voilà, elle veut des chemises au bon marché et elle râle parce qu'il n'y a pas de Starbucks ouvert.
Merci pour la traduction. Alors, vous faites également systématiquement des blagues et oui, vous aimez ça. D'ailleurs, après votre accident, vous aviez donné des surnoms à vos cannes. L'une portait le nom d'un cocktail, l'autre s'appelle Giuseppe. Mélodie Gardot, femme gourmande, vous êtes capable de vous lever à 3h du matin pour finir le gâteau de la veille. Petite, vous détestiez les légumes et vous les planquiez sous la table.
Non, mais attends. Cette histoire de gâteau, je ne suis pas cette fille qui se réveille le
Non, mais ça peut arriver.
Non, mais ça est arrivé exprès pour une raison. Je vous explique. J'étais avec quelqu'un qui, le jour avant, c'était mon gâteau d'Annie, hein, qui, le jour avant, a bouffé le morceau qui était réservé pour moi.
Ah non.
Alors, le reste du gâteau, la dame qui a fait gentiment m'a filé parce qu'elle a compris que voilà. Et pendant qu'il dort, j'ai attendu que le mec il dort. Pour que je puisse me lever et manger mon portion de gâteau avant que l'animal se lève le matin pour manger le reste. Alors, ce n'était pas que je suis gourmande, c'est que j'ai réclamé mon
vous
truc
avez
à moi.
Raison.
Justice,
mon gâteau.
Justice,
évidemment. Alors, Mélodie Gardot, dans votre valise, finalement, il y a tout ce qu'on aime. La sincérité, la force, la fidélité, la persévérance, l'humour, la sincérité. Je l'ai déjà dit, mais je le redis.
Ouais.
On ne veut pas la refermer. Vous qui êtes passionnée d'étoiles, vous adorez les regarder. Alors, on vous souhaite de briller encore une éternité.
Merci beaucoup, Hélène. Petite réaction, c'est émouvant.
Oui, c'est très émouvant. Mais j'aimerais bien savoir avec qui t'as parlé.
Vous ne le saurez
jamais. Évidemment.
Un des talents d'Hélène Manarino, c'est de ne jamais dévoiler ses sources. Culture Média continue dans un instant. Notre premier indispensable, nous sommes avec Louise Bernard, qui va nous faire découvrir des tableaux très célèbres, mais d'une manière très particulière. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Mélodie Gardot, je vais y arriver. J'étais ému parce que j'entendais à l'instant. Vous êtes connue dans le monde entier, vous pouvez jouer dans le monde entier. Est-ce qu'après cet album, des concerts sont prévus ?
Absolument pas. On a eu des espoirs que cet été, quelques dates, il va rester. Peut-être jazz à juin avec un public très 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 diminué. Mais pour l'instant, si moi j'ai envie de jouer un concert, il faut faire pendant ces voyages 4-5 heures avec toi, 400 personnes dans un avion. C'est le seul moment d'avoir un groupe rassemblé quoi.
Et vous parlez du festival jazz à juin, mais vous êtes connu dans le monde entier, pourquoi ne pas faire une sorte de tournée ou des concerts dans des pays qui seraient débarrassés du Covid, comme par exemple l'Australie ou la Corée, voire même la Chine? Vous vous êtes posé cette question là?
Oui, on est en train de regarder, mais le problème, c'est que aussi, là, vous parlez d'un grand voyage avec une énorme équipe. Ce n'est pas comme si on a fait en Europe où on peut faire tous en bus. Dès qu'on parle des voyages et tout, ça monte le frais énormément. Ouais. Et même l'équipement et tout. Alors, ça peut être trop, trop lourd pour les promoteurs aussi.
D'accord.
C'est difficilissime.
Et vous disiez que vous pouviez faire des concerts presque toutes nues. Toutes nues, ça veut dire avec très, très peu de musiciens.
Quoi ?
C'est quoi ? Dans une interview, vous disiez ça. C'est quoi maintenant la configuration ? Vous jouez avec quel groupe ?
Bah, ça dépend. Pour l'instant, nous sommes en train de faire plein de promos où il y a 4 musiciens. C'est guitare, basse, batterie, piano. Parce qu'il y a des musiciens à Paris que j'adore. Et je suis en train de rassembler un petit groupe ici. Mais d'habitude, ce que j'adore faire, c'est jouer avec des musiciens classiques. Des philharmonies partout. Parce que ces musiciens, ils donnent quelque chose de velours, de nuage autour de la musique. Vraiment une atmosphère, un horizon illimité qui peut nous laisser plonger dans le monde des émotions beaucoup plus fortes que si on était deux.
Je ne sais pas si on va plonger une fois encore dans le monde des émotions avec vous, Louise Bernard. Rebonjour.
Rebonjour.
Vous nous proposez ce matin de découvrir une web-série sur Arte autour de l'art. Elle s'appelle, j'aime beaucoup ce titre, Merci de ne pas toucher.
Oui, en fait, ce sont des mini-documentaires de 3 à 5 minutes et ça permet de découvrir des tableaux très célèbres, classiques, hein, sous un autre angle, féministes, queer et souvent érotiques. Tout est vrai, hein, c'est simplement une autre lecture dont on a moins l'habitude, que nous propose une professeure d'histoire de l'art, Hortense Bellotte. Alors à chaque épisode, il y a une toile de Manet, Velázquez, Le Caravage, Vermeer entre autres, il y en a 10 en tout. Elle analyse les tableaux et les décrypte dans des décors à chaque fois très modernes, surprenants, toujours avec une allusion à l'œuvre.
Alors ça ressemble à quoi concrètement ?
Alors ça donne des vidéos donc, sur l'art, tournées dans une salle d'escalade, dans un garage, ambiance tache de graisse noire sur le Marcel Blanc, ou encore chez l'esthéticienne. Elle se fait épiler les aisselles et elle vous raconte l'histoire de L'origine du monde de Gustave Courbet, le tableau d'un sexe de femme poilue, des décors modernes et une façon de raconter aussi.
Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, cette œuvre n'a pas choqué. Et ce, tout simplement parce qu'elle n'a pas été montrée en public. Elle était faite pour des collections privées et elle y est restée, jusqu'à finir dans celle du psychanalyste Jacques Lacan, qui en fit don à l'État français. Et ce n'est qu'en 1995 qu'elle entre au musée d'Orsay et qu'elle se retrouve à faire le buzz comme la dernière sex tape de Kim Kardashian.
Et à la fin de chaque épisode, elle et sa bande de comédiens rejouent le tableau version 2021, toujours avec beaucoup d'humour et des vidéos très esthétiques. Et il faut les regarder plusieurs fois pour voir les petits clins d'œil au tableau, notamment souvent avec la couleur des vêtements.
Alors on a vu l'image que vous présentiez du tableau de Courbet sur Europe1.fr. Est-ce que c'est assez accessible pour tout le monde, Louise ? Est-ce que c'est grand public ?
Bien sûr, c'est même le but de ces vidéos.
J'ai voulu en fait essayer de désinhiber le spectateur par rapport à ce qui serait considéré comme de la haute culture, de la grande culture, avec tout ce que ça peut impliquer de domination, et de portes fermées et d'exclusion. Et donc de rendre tout ça accessible et simple en fait. Il y a beaucoup de programmes de vulgarisation qui finalement continuent de sacraliser et de mettre à distance. Et je voulais essayer de prendre ça dans le sens inverse, de montrer que ce n'est pas au spectateur d'aller faire le chemin vers cet objet-là qui serait extrêmement haut, mais que cet objet-là est à portée de main, littéralement. Donc merci de ne pas toucher, mais en fait, on peut le faire.
J'aime bien cette formule. Ouais. Et puis, je vous le disais au début, elle a une vision très érotique des tableaux. Vous connaissez ce tableau de la laitière de Vermeer ?
Évidemment, c'est pour la publicité pour du yaourt.
Voilà, depuis...
Non, elle a été recyclée, mais c'est comme ça qu'elle est devenue très, très grand public.
Exactement. Et bien, vous ne regarderez plus le tableau pareil et la publicité après avoir entendu l'analyse de cette professeure de l'histoire de l'art.
Pendant longtemps, les historiens de l'art y ont vu une peinture simplement naturaliste, opposée aux grands sujets religieux et d'histoire tels qu'on les trouvait en France ou en Italie. Mais contresens total. Aussi absurde que de regarder un porno des années 90 comme un reportage sur la plomberie. La peinture hollandaise est une peinture symbolique et avec énormément de sous-entendus. Une laitière à l'époque, c'est un cliché érotique que tout le monde comprend tout de suite. Regardez ce petit cube en bois. C'est une chauffeuse avec une céramique et une braise brûlante à l'intérieur. On l'utilisait pour réchauffer les petites pièces de linge, c'est-à-dire les sous-vêtements, et c'est-à-dire que la laitière a chaud. Juste à côté, sur un carreau de faïence, en tout petit, un homme avec un bâton de pèlerin évoque un mari en déplacement. La place est donc libre. Cupidon peut décocher ses flèches à loisir, annonçant la naissance du désir pour un autre, ou plus.
C'est juste incroyable.
Ouais, j'avais jamais entendu personnellement cette version-là.
Non plus.
C'est celle qui a été le plus étonnante. Sinon, il y a d'autres tableaux qui sont décryptés où on connaît un petit peu plus. Mais là, vraiment, c'était passionnant. Et donc, cette web-série « Merci de ne pas toucher » d'Hortense Bellotte est disponible déjà dès aujourd'hui sur arte.tv et c'est réalisé par Cécilia De Hars.
Mélodie Gardot, ça vous a surprise comme nous ?
Oui, totalement.
Vous allez regarder ça ?
J'ai regardé et c'est incroyable d'entendre cette histoire. Mais j'aime bien parce que c'est un clin d'œil dans l'histoire.
Exact.
C'est comme les messages cachés dans les poésies de le XVIIe siècle, quelque chose comme ça.
Exactement, le petit cube bien chaud. Dans un instant, on va parler manga avec notre deuxième indispensable, nous sommes avec Clément Le Saffre. Merci beaucoup Louise Bernard, mais d'abord musique avec Carla Bruni, Un grand amour.
Europe 1, Culture Média.
On peut chercher l'amour dans les yeux que l'on croise, dans les peaux que l'on touche, au creux des nuits soyeuses, à pleine bouche. On doit chercher l'amour, c'est la moindre des choses, tu sais. Il n'y a rien d'autre au monde, c'est vrai, et rien d'autre qui compte. On peut chercher l'amour de mille et une manières, tranquillement en passant, ou alors comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. On doit chercher l'amour pour sauver nos peaux de l'effroi, pour sauver nos vies de l'enfer. C'est gravé dans la pierre, mais quelquefois il nous arrive un grand amour qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi. Et alors voilà le grand amour, celui dont on rêvait toujours, dont on rêvait toujours. On a besoin d'amour, quels que soient nos visages, quelles que soient nos prouesses, et quels que soient nos équipés sauvages. On a besoin d'amour, tout comme l'on respire, tu sais. C'est là qu'est notre inespéré, c'est là qu'on se déchire. Il nous arrive d'aimer contre toute espérance, sans l'ombre d'un atout, sans l'ombre d'une chance, comme à genoux. Il nous arrive d'aimer comme des naufragés, tu sais. Comme des possédés, c'est vrai, c'est là qu'est notre chance. Et quelquefois, il nous arrive un grand amour qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi. Et alors, voilà le grand amour, celui dont on rêvait toujours, dont on rêvait. Quand on retrouve l'amour, c'est comme une page blanche qui nous reste à écrire, tout comme l'on se penche. Regarde, regarde, il nous arrive un grand amour qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi. Et alors, voilà le grand amour, celui dont on rêvait toujours, dont on rêvait toujours.
Un grand amour, c'était Carla Bruni sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Clément Le Saffre qui va nous faire découvrir un manga adapté d'une histoire légendaire.
9h, 11h,
Europe 1 Culture.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Mélodie Gardot, souvent présentée comme une diva du jazz, sauf les colères, son dernier album c'est Sunset in the Blues. On continue à en parler jusqu'à la fin de cette émission. Mais d'abord, deuxième indispensable du jour avec Clément Le Saffre. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et Clément, aujourd'hui vous nous parlez d'extraterrestres, mais rien à voir avec Mars 2021. C'est non. Des vieux extraterrestres, si j'ose dire.
Ils viennent aussi de Mars, mais vous allez voir, c'est pas exactement les mêmes. Hein. Et c'est pas n'importe quels extraterrestres, surtout ce sont ceux de La Guerre des Mondes, le roman de H.G. Wells, publié en 1898, c'est un grand classique, c'est le premier roman à avoir imaginé une invasion extraterrestre sur Terre. Et plus de 120 ans après, eh bien, il continue d'inspirer les écrivains et même les mangaka jusqu'au Japon, puisque La Guerre des Mondes vient d'être adaptée en manga, une belle édition en plus chez Kiyun, que Mélodie Gardot est déjà en train de feuilleter. Ce sont déjà... Cette même maison d'édition, c'est elle qui publie les adaptations de Lovecraft, hein, vous savez, dont je vous ai parlé ici il y a quelques semaines.
Mais alors avant de parler de ce manga spécifiquement, Clément, il faut rappeler l'histoire de La Guerre des Mondes.
Oui, nous sommes à la fin du 19e siècle. En Angleterre, des scientifiques observent d'importantes explosions à la surface de Mars. Quelques jours plus tard, un immense cylindre s'écrase dans la campagne près de Londres. Tout le monde se précipite, curieux, hein, ombrelle pour les dames, chapeau de forme pour les messieurs. Sauf que pas de peau, un extraterrestre en sort et il n'est pas venu pour pique-niquer. Avec des rayons ardents, il attaque les badauds. Très vite, d'autres martiens arrivés, montés sur d'immenses tripodes, ils entament leur entreprise de destruction.
Et là, c'est l'histoire d'invasion extraterrestre, la première par excellence.
Oui, un grand, grand classique de la littérature, adapté au cinéma par Steven Spielberg, c'était en 2005, mais on se souvient surtout de la pièce de théâtre radiophonique diffusée en octobre 1938. La radio américaine CBS avait adapté le livre en feuilleton audio, sous la direction d'un certain Orson Welles qui n'avait que 23 ans à l'époque.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
Au début, ça prenait la forme d'un programme radio classique avec de la musique interrompue par un flash spécial quand le cylindre s'écrase. Le présentateur rapporte l'arrivée sur Terre de météorites et un reporter se rend sur place.
Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw.
Il décrit un peu ce qu'il voit. Et là, le chaos. L'extraterrestre sort de sa capsule, il commence à tirer sur tout le monde. Alors tout ça est joué évidemment par des acteurs avec des bruitages faits à la main, mais l'histoire dit qu'à cause de ces flashs spéciaux, plus vrais que nature, on y croit, on croit un vrai reportage,
les Américains... Ça crée un scandale.
Exactement.
Ça crée un total scandale
les
où
Américains
tout le monde a essayé de se cacher.
C'est ça, voilà. Exactement.
Dans leur atomic bomb shelter.
Les Américains, certains en tout cas, auraient cru à l'invasion extraterrestre.
Exactement.
Ça aurait déclenché des mouvements de panique. Alors ça, c'est l'histoire. Elle est un peu exagérée. Il y a bien eu quelques personnes ici et là qui ont appelé le standard de la CBS ou qui se sont cachées dans leur bunker. Mais ça, voilà, ça n'a pas fait une panique. Ça n'a pas fait une panique mondiale non plus. Mais ça a quand même contribué, de fait, à la légende de la guerre des mondes.
Et cette légende nous amène donc à ce manga.
Oui, absolument. Écrit par Sai Ihara et dessiné par Itotsu Yokoshima. C'est donc Mélodie Gardot qui l'a entre les mains.
Et qui nous le montre.
C'est une belle édition, absolument. Sans réinventer l'histoire, ils apportent de la vivacité avec des chapitres très courts et les dessins très nets du manga. C'est la spécificité du genre. Il y a quelques ajustements aussi. L'action se passe en 1901. C'est 7 ans plus tard que dans le livre. C'est pas un énorme changement, mais ça permet quand même d'introduire quelques technologies et des armes supplémentaires surtout. Et puis, le personnage principal devient un photographe. C'est un métier parfait pour en faire un observateur de l'invasion martienne. Il lui veut à tout prix capturer ce moment historique. Donc il passe beaucoup de temps à prendre des photos. Et il y a aussi deux points qui, moi, m'ont beaucoup plu dans le manga. D'abord, c'est visuellement assez gore, il faut le prévenir. Les rayons ardents coupent les gens en deux. Le dessinateur ne se prive pas de détails. Alors c'est pas gratuit.
Ah, faites voir, Mélodie.
C'est pas gratuit du tout.
Ouais.
Ça apporte vraiment une dimension horrifique assez saisissante qu'on retrouve pas forcément dans d'autres œuvres. Et puis l'histoire est approfondie. Chaque séquence est allongée. L'auteur ajoute des détails ici et là, ça donne de la profondeur à un livre qui est quand même très connu. Donc là aussi, c'est malin, on a l'impression de redécouvrir. Moi, je connaissais l'histoire par cœur. J'avais l'impression de relire quelque chose de nouveau. C'est une série qui est en 3 tomes. Le premier vient de sortir aux éditions Kiun, donc le deuxième devrait suivre dans l'année, le troisième un petit peu plus tard. Et puis, je vais mentionner au passage, puisque c'est un peu gore, on l'a dit, donc c'est pas forcément pour tout le monde, une autre adaptation de La Guerre des Mondes qui est sortie il n'y a pas longtemps, en BD cette fois, œuvre de l'allemand Thilo Krapp, sortie l'an dernier. C'est plus fidèle au livre que le manga. Là, pour le coup, on est dans une adaptation assez classique. On retrouve un peu plus ce décalage qui est peut être marrant dans ce livre, c'est l'atmosphère. Vous savez, vous avez l'atmosphère bucolique de la campagne anglaise d'un côté, et puis l'horrible invasion martienne de l'autre. C'est beaucoup moins violent que le manga, je l'ai dit. Et c'est donc parfait pour des enfants ou des jeunes ados, par exemple. C'est un bon moyen de leur faire découvrir une histoire qui est quand même légendaire.
Voilà, et puis pour le premier manga, c'est pour l'anniversaire de votre maman, Mélodie Gardot. Ça vous a plu?
Je suis pas sûre qu'elle va aimer ça. Mais en fait, elle m'a raconté cette histoire quand les gens, ils ont paniqué.
Ouais.
C'était...
Mais elle l'a pas vécu, c'était en 1938. Elle...
Non, mais,
non, mais tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler de cette histoire.
Parce que la famille était traumatisée. Mais par contre, quand elle était petite, il y avait une autre chose. Je pense qu'ils aimaient traumatiser les enfants, les gens. Bill Cosby, qui a raconté des histoires d'horreur sur la radio. Quelqu'un qui va rentrer dans la maison, le cœur qui bat, touc, 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 touc. Après, il avait un truc qui s'appelle The Blob, qu'il a raconté aussi. Mm-hmm. C'était en gélatine, comme une confiture, qu'ils ont filmé en zoom pour donner l'impression que c'était une taille de Godzilla. Et c'est un film noir et blanc. Et c'est étonnant. C'est culture, like a cult fiction. I don't know how you say, cult classic.
Oui, c'est
et c'est quelque chose pour nous. Et c'est drôle pour moi de regarder ça parce que ça me fait rappeler toutes ces histoires de ma mère. Elle a encore un vinyle, Cosby, qui raconte cette histoire du blob, où tous les enfants, après, ils se cachent sous le lit parce qu'ils ont peur et ils ne peuvent plus dormir. Mais ils étaient très pervers sur la radio à l'époque où ils essayaient de faire peur à
comme
tout
quoi,
le monde.
Comme quoi, la fiction est des fois plus forte que le réel. Hein.
C'était dark.
Exactement. Et nous ne sommes pas pervers, nous sommes très gentils sur cette radio et on est ravis de vous entendre.
Que les bonnes ondes.
Mélodie Gardot, et merci d'avoir été avec nous, Clément Le Saff.
Avec plaisir.
Culture Média continue, c'est la
merci.
Dernière ligne droite.
Merci, Clément.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de la chanteuse de jazz, autrice, compositrice Mélodie Gardot, votre dernier album s'appelle Sunset in the Blue. Vous l'avez composé pendant le confinement. Je voudrais qu'on entende de son de l'album et votre voix. Il y a des titres dont on pense que ce sont des classiques ou alors que ça peut devenir des classiques. Parfois même, je me dis, c'est peut-être une reprise. Ça sonne tellement comme un classique. Par exemple, la chanson, elle est trilingue, cette chanson. Portugais, anglais, français, le titre est en français, c'est magnifique.
Oh, what a beautiful dream. Oh, what a beautiful scene. C'est magnifique. Eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá, só você não vê. Meu sol caiu no mar.
Élodie Gardot sourit et fait un petit pouce levé vers notre réalisateur parce qu'on a fait un montage pour arriver à raccorder les voix en français, en anglais, en portugais. Donc cette version-là n'est pas sur l'album. Vous avez la version en entier. Le clip sublime. Vous êtes dans une Mercedes décapotable avec un carré Hermès sur une route de la Corniche, de la Côte d'Azur. Vous, où est-ce que vous avez appris toutes ces langues ? Parler le français, le portugais par exemple ?
Mais en fait, fur et à mesure, le voyage, ça vous obligeait d'apprendre vite fait. Ouais. Quand je suis arrivée à Portugal, c'était en 2010 presque, j'étais un alfama bien avant que c'était le crise. Mmh. Et là, il n'y avait personne qui parle anglais. Alors tu es obligée, au Brésil aussi, tu es obligée. C'est quelque chose pour moi qui était tout à fait plus facile peut-être parce que je suis musicienne et moi je considère chaque langue comme une musique. Et j'absorbe très vite.
Alfama, qui est un quartier de Lisbonne, vous avez appris également très vite le français. Et ce qui vous permet de chanter, par exemple, l'une de vos chansons préférées.
Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Vous pouvez la chanter, celle-ci.
J'adore cette chanson. Ouais. En fait, on a des petites idées de faire cette semaine, mais on verra. Oui, j'aime bien. Je connais les refrains. C'est ça, ça reste tous les temps. C'est Lee Howard. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. Ça va, ok. Mais après, je suis perdue parfois pour les mots dans les verses, comme dans les grands tubes aux États-Unis. Alors pour moi, c'est je voulez-vous, mon amour. Je voulez-vous, mon amour. Et après, c'est clair. Ne vous déplaise en dansant la japonaise. Alors pour moi, c'est...
c'est une solution. Il faudrait faire un duo avec Jane Birkin.
Bah oui, un jour. J'adore cette femme. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Elle est absolument étonnante, intelligente, belle. Et encore une fois, ce que j'aime beaucoup, comme étranger qui ne comprend pas tout, mais dans la musique de Gainsbourg, il est arrivé à mettre les femmes dans la lumière aussi. Dans une époque où les duos étaient si importants, maintenant on n'a pas ce type de duo. Mais pour moi, la raison pour laquelle c'est encore important et relatif, c'est qu'on a ces duos qui durent. C'est des classiques, Melody Nelson, Annie Erotique, tout ça. J'adore. Je tourne ça en boucle chez moi.
On ne peut pas vous comprendre complètement, Melody Gardot, si on ne connaît pas le drame qui est survenu dans votre vie quand vous avez 19 ans. Je vais la raconter de manière courte. Vous étiez à vélo à Philadelphie, un 4x4 vous percute, vous laisse quasiment pour morte, coma, paralysé de la taille jusqu'en bas, incapable de parler. On vous dit que vous ne pourrez plus jamais marcher. Mmh. Vous passez un an sur un lit d'hôpital, allongé sur le dos, paralysé, impossible de parler. Pourquoi je parle de ce drame ? Parce qu'un médecin recommande à votre maman la musicothérapie pour vous. Mmh. Votre maman vous apporte une guitare dans votre chambre d'hôpital et vous dites avoir été sauvé, littéralement sauvé, par la musique.
Oui, c'est une histoire beaucoup trop longue pour le temps que nous avons ensemble, malheureusement.
Évidemment, mais je veux dire pourquoi je voudrais dire à quel point ça vous détermine, combien même ça ne vous a pas construite. Premier album sorti aux États-Unis en 2006, gros succès critique, gros succès commercial. Vous donnez des concerts, vous le défendez, et je voudrais qu'on entende un titre du nouvel album. Il s'appelle Love Song.
You say it's very hard to leave behind the life we need. But there's no other way, and now it's really up to you.
Up to you, up to me. Le batteur joue de manière très douce, il frappe pas la peau avec des baguettes, tac, 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 mais il la caresse avec ce qu'on appelle des balais. Et ce style vient de vous parce que les sons violents vous heurtent comme les lumières violentes vous heurtent, c'est bien ça?
Oui, j'aime pas trop le bruit quand c'est très très fort, ça me fait mal. En fait, je suis hypersensible. Médecin d'oreille m'avait dit que j'entendrais 2-3 fois plus que les autres.
Ouais.
Ça, c'est difficile. Alors, personne peut faire le chuchoter en face de moi et pense qu'il va garder leur secret.
C'est bien. On n'a pas parlé trop fort. Et d'où les lunettes? D'où les lunettes aussi.
Encore une fois, oui.
Les lumières trop fortes.
Au début, ça m'a gênée parce que je ne voulais pas. Je voudrais vraiment pas être handicapée et avoir besoin d'apporter les lunettes le soir et tout ça parce que ça pose et provoque pas mal de questions. Mais ça fait 15 ans maintenant et j'ai décidé que ça me donne un avantage car je ne crispe pas les yeux en face du soleil, alors j'ai moins de rides à mon âge.
15 ans ? Parce que vous avez deux âges. Vous avez un âge, votre première vie, jusqu'à 19 ans, et puis votre seconde vie.
Oui, bah c'est un peu plus que 15, mais on round down toujours pour les femmes.
Moi, j'avais compté 16 ans. Mais enfin, c'est la première fois que j'ai une invitée de 16 ans, et surtout qui chante aussi bien. Un grand merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Mélodie Gardot. C'est quoi cette voix?
Je rappelle. Moi, c'est tout petit, j'ai que 16 ans, quoi.
Mais non, on parle comme ça, à 8 ans, à 16 ans, on a mué.
Oh, je suis désolée.
Merci, Mélodie Gardot. Votre dernier album s'appelle Sunset in the Blue. C'est votre voix qu'on entend, et je me sens même un peu gêné de devoir couper pour annoncer le programme de demain, parce que Culture Média, ça revient demain, avec une émission qui va mettre à l'honneur les virtuoses du tatouage. Vous êtes tatouée, Mélodie Gardot ?
Oui.
Je ne m'attendais pas à cette réponse, donc je vous demanderai où et quoi, ça sera pour demain. Ça s'appelle Tattoo Cover, sauveur de tatouage. Nous serons avec l'animatrice Cécile Djunga et son tatoueur, il s'appelle Marty, et puis François Ravard. Il a été le manager des plus grands, il a été le manager, c'est de qui ? De Serge Gainsbourg.
Wow.
Il raconte Gainsbourg dans ses mémoires demain. J'ai lu déjà un tiers du livre, c'est complètement dingue. Ça s'appelle Rappel, juste après le flash, chez Anne Romanoff. Salut, merci encore Mélodie Gardot.
Merci.
La journée continue sur Europe 1.
Culture Média, Philippe Vandel.